Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Chaque 25 juillet, à Moissac, pour célébrer l'apôtre Jacques, de très nombreux randonneurs, pèlerins, touristes ou simples promeneurs, saisis par la beauté et par l'histoire plus que millénaire de la ville jacquère, se rassemblent sur le parvis de l'abbatiale Saint-Pierre. D'autres, des musiciens, des chanteurs venus de tous horizons, se retrouvent une semaine durant autour de Marcel Pérez et de son ensemble Organum pour une session de chant ancien. Objectif ? Se plonger aux sources mêmes de l'art du chant et les 24 et 25 juillet chanter au chœur et avec la communauté paroissiale les offices de Saint-Jacques tels qu'ils pouvaient être chantés au XIIe siècle et tels qu'ils ont été restitués par Marcel Pérez, brillant organiste, érudit hors pair et fabuleux conteur. Nous le retrouvons sans plus tarder sur le parvis de l'abbatiale. C'était un 24 juillet à Moissac.
Et vous avez du monde au stage ?
Oui, on a trois stages en même temps, parce que tous les ans on fait un stage sur Saint-Jacques, sur les offices de Saint-Jacques, qui permet à ceux qui ne les ont pas fait de prendre le train en marche. On doit avoir une cinquantaine d'adultes. Non, la philosophie c'est qu'on c'est ouvert à tout le monde. Ceux qui frappent, on leur ouvre la porte. C'est un vieux conseil d'un vieux monsieur qui est passé il y a longtemps sur Terre. Et ça marche. Chacun reçoit son niveau. Non, c'est vraiment encourageant. Ça fait 14 ans que je fais les stages ici. Peut-être en 14 ans, il y a...
C'est par là ? Ouais. D'accord.
Il y a deux personnes qui sont parties pour des stages d'âge, pas pour moi, mais enfin, qui étaient un peu chrognieux. Alors, on va passer par là. Alors,
ici, là ? Oui. Ouais, d'accord. Nous sommes où ? Ce bâtiment, c'est quoi ?
On est sur l'aile est du cloître. Et puis, en fait, c'est la seule aile qui a été conservée du cloître, que le roi qui a été démoli. C'est l'endroit le plus précieux de Moissac, en fait.
On est dans le Saint des Saints, là.
Voilà,
c'est ça,
parce que là, on est vraiment sur le seul endroit où on peut encore travailler, penser, se préparer, chanter sur tout ce qu'il y a autour de cette abbaye. Des choses qui me semblent très importantes. Tout le monde a à la bouche le mot patrimoine, on parle de patrimoine, et ce que j'essaie de mettre en avant, c'est de faire comprendre que derrière les pierres, il y a des hommes. Déjà, patrimoine, il y a père derrière, ça vient de pater. De voir tous ces monuments comme quelque chose qui a été transmis par des gens qui sont vraiment des pères. Vous savez, on a célébré les 950 ans de la consécration de l'église abbatiale. Je l'ai pensé comme une longue réflexion sur la personnalité de ces hommes qui ont imaginé, conçu et construit cette abbaye qui, 950 ans après, continue à donner une identité à un territoire, continue à nourrir une population. Il faut bien dire que Moissac, s'il n'y avait pas son abbaye, ce serait un trou, il n'y aurait pas grand-chose. Et donc, voilà, près de 1000 ans après, on peut se poser la question, mais qui étaient ces hommes pour avoir construit un investissement, pour parler en termes modernes, qui porte encore des fruits presque 1000 ans après. Est-ce que nous, on serait capable de dire, on va monter quelque chose qui, dans 1000 ans, va encore nourrir nos arrière-petits-enfants ? Eh bien, eux, ils l'ont fait. Et je crois que la chose la plus urgente, d'autant plus qu'en ce moment, on sent bien que
l'humanité doit faire des choix radicaux si on ne veut pas aller vers le chaos. Et donc de réfléchir à ce que ces hommes ont fait, quelle était leur vision du monde, leur vision de l'homme, de sa relation à la nature, sa relation... Vous voyez, ces bâtiments sont encore debout, quoi. 9 siècles, 10 siècles après, ils sont encore debout. On les a restaurés, évidemment, mais ils sont là. Mais ce n'est pas que des bâtiments, quoi. Il y a quelque chose. Et c'est quelque chose, chacun le ressent à son niveau. Et de réfléchir sur toutes les relations complexes qu'entretient ce monument, qui est à la fois un monument religieux, et moi ça, heureusement, est encore un monument où il y a une vie religieuse, c'est pas simplement une coque vide, comme malheureusement on le voit souvent dans des centres culturels, dans d'anciennes abbayes. Non, il y a encore une vie religieuse, et puis en même temps, ben, promenez-vous sur la place, il y a le restaurant de l'abbaye, le restaurant du cloître, le bistrot Saint-Jacques, enfin, l'économie locale, elle est encore centrée sur ces choses-là. Et même, voilà, le restaurateur qui n'a pas une conscience religieuse transcendante...
Ni musicale,
ben, il y a quand même en relation, et on est en relation, et ben, j'ai d'excellentes relations avec, évidemment, bon maintenant ça fait 15 ans que je suis à Moissac, alors vous imaginez bien que tous les restaurants qui sont autour d'abbaye, on les a écumés en long en large, et puis on se connaît depuis longtemps maintenant, et même si, ben, beaucoup d'ailleurs, dès qu'ils peuvent, ils viennent au concert, souvent c'est difficile, parce qu'évidemment les restaurateurs ont des emplois du temps qui ne leur permettent pas d'aller au concert, mais quand ils peuvent, ils le viennent, quand on en discute, et surtout, on se sent relié par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est à la fois quelque chose d'invisible, mais d'extrêmement tangible. C'est une relation humaine, on sent que nous sommes portés par quelque chose, et quelque chose qui va bien au-delà de nous, quoi. Alors voilà, donc alors maintenant j'aime bien, parce que comme on parle beaucoup de patrimoine, j'aime bien mettre en avant le côté, cette dimension de ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Parce qu'en fait, si on se concentre uniquement sur la pierre, eh bien voilà, je dirais on en fait vite le tour aussi, quoi. On fait une visite guidée, ah c'est joli, c'est bien, on a passé 20 minutes, une demi-heure, puis après quoi. Alors ce quoi. C'est justement ce qui est notre vocation à l'ensemble Organov. Depuis que nous sommes nés, c'était en 1982, dans un lieu aussi assez particulier, c'était l'abbaye de Sénanque, une des trois grandes sœurs provençales. Et là, dans cette abbaye de Sénanque, notre vocation s'est dessinée d'elle-même, je dirais, c'est-à-dire apporter quelque chose de vivant à ces lieux, une vie qui se nourrit du lieu lui-même. Alors je trouve qu'à Moissac, au 11e, au 12e siècle, on a créé énormément de choses, de la musique, des textes, de la poésie liturgique. Vous voyez ici,
les auditeurs ne peuvent pas voir.
Voilà,
montrer,
voilà.
Oui,
ça, c'est un trop perproseur de Moissac, vous voyez. C'est le facsimilé, c'est pas l'original. L'original est à Paris. Déjà, ouais, le facsimilé, il doit faire 3 kilos. Ouais. Et voilà, c'est ces choses-là.
Et donc, à l'intérieur,
c'est de la poésie liturgique, tout ça. C'est-à-dire, c'est des textes poétiques qui étaient intercalés au milieu des textes canoniques. Vous voyez, donc vous avez les textes de la liturgie canonique, mais ça ne leur suffisait pas. Mmh. Parfois, maintenant, on dit « Oh, la liturgie est trop longue ». Mais pour eux, une liturgie, c'est jamais assez long, parce que la liturgie, c'est le moment qu'on passe.
C'est la gloire de Dieu, c'est chanter le...
Oui, et puis de l'homme aussi, parce que c'est l'homme qui participe, déjà avant sa mort, il participe à la cour céleste, il participe à la vie surnaturelle. Donc, dire qu'une liturgie est longue, c'est faire preuve d'une inconscience grave. La liturgie est toujours trop courte. Et alors, à Moissac, on a composé une poésie.
Il date de quelle époque, ce troper?
C'est le 11e siècle. Oui, le troper prosaire de Moissac du 11e siècle. C'est de la poésie latine magnifique, mais plutôt hermétique, quoi, parce que c'est des hommes qui étaient complètement pétris de la Bible, quoi.
Hervé, l'un de ces chanteurs de la session Jacquard. 12h15, 25 juillet, Marcel Pérez donne un concert de carillon. Les chanteurs se sont réfugiés sous le porche de l'abbatiale, l'orage gronde.
Hervé, je viens à peu près faire, disons, 3 stages par an. Je suis parmi les stagiaires assidus, disons. parce que je viens de pas très loin. Je viens de Carcassonne. D'autres viennent de beaucoup plus loin, de pays étrangers, et ne peuvent pas venir aussi souvent. Mais voilà, pour ma part.
Oui. Vous êtes chanteur professionnel ou...
Non, pas du tout. C'est un hobby pour moi. Enfin, j'y consacre beaucoup de temps, mais c'est un hobby.
Et justement, ces musiques médiévales, en quoi et comment peuvent-elles faire écho à votre vie d'aujourd'hui ?
À dire vrai, j'ai commencé par faire de la musique classique, comme la plupart des musiciens. Et c'est en cherchant à comprendre les origines de chaque musique que j'ai pratiquée que petit à petit, j'ai fait aussi du baroque, du renaissance et de la musique médiévale. Je trouve que dans la musique médiévale, on trouve tous les éléments qui constituent l'évolution ultérieure de la musique. C'est pour moi une manière de comprendre l'histoire de la musique, comment elle est arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui au XXIe siècle.
Durant tout ce temps d'apprentissage, les enfants et les jeunes ont toute leur place. Parallèlement aux sessions organisées pour les adultes, une quinzaine d'enfants, conduits par Luc Terrier et par Jodel Grasset, découvrent ou approfondissent la pratique du chant médiéval et des instruments anciens.
Attendez là, qu'est-ce qui se passe ?
Il manque une note !
Bah oui, il manque une note !
Mais il manque un chanteur !
Mais il manque un chanteur
on a
aussi
un chanteur.
Messieurs, dames, il nous faut un chanteur et il nous faut
on
une note.
On a perdu le chanteur.
Veuillez vider vos sacs, vos poches, s'il vous plaît. Quelqu'un voulait la note. Merci. Replaçons la note. Hein, nous allons la replacer dans le contexte. C'était bien.
Arrête.
Ah, c'est vrai. Ah, c'est plus bas.
Luc Terrieux.
La question qui se pose, la question fondamentale, c'est quel est le sens de tout cela ? Nous tentons de donner du sens autant à notre niveau d'enseignant et de membre de l'ensemble organum qu'au niveau des stagiaires adultes et enfants, par la fréquentation de ce lieu, bien entendu. Et globalement, cette idée transversale traverse toute notre démarche, que ce soit au niveau des lieux, au niveau du répertoire, puisque ces musiques, certes, ont été chantées et notées il y a presque 1000 ans, mais l'actualité de ces musiques ne tient qu'à nous. À partir du moment où elles sonnent aujourd'hui, dans notre siècle, on peut estimer qu'elles ont une forme de contemporanéité qui leur donne du sens, tout simplement. Et puis, plus largement, je dirais que ce répertoire est un prétexte. Prétexte à la pratique du chant, bien entendu, prétexte à une attitude pédagogique, vocale, humaine, donc dans le cadre d'un spectacle présenté au public. Cette attitude, elle est régie par des codes qui passent par une manière d'être, de regarder, de faire, de se tenir, d'émettre un son en extérieur, en intérieur. Voilà. Et tout cela nécessite, on peut dire, évidemment, une formation. Donc l'objet du stage est d'initier les enfants à toutes ces choses-là.
Alors là, aujourd'hui, pendant tout ce stage, vous les avez embarqués entre histoire et imaginaire.
C'est
le
ça.
Spectacle que vous allez donner, c'est un conte du Moyen-Âge, mais un conte d'aujourd'hui aussi.
C'est ça, c'est un conte improvisé. Alors, on pourrait développer, évidemment, ces deux mots pendant très longtemps. Mais voilà, schématiquement, Jaume, donc Saint-Jacques enfant, vit des aventures extraordinaires et palpitantes depuis 12 ans. Et on lui fait vivre toutes sortes de choses. Il est passé par des rencontres, des voyages, il a vécu la Coupe du Monde, évidemment, et etc., etc. C'est-à-dire qu'on l'inscrit aussi dans l'actualité d'une manière ou d'une autre, ce qui, quelquefois, peut le mettre dans des situations très cocasses et amusantes, qui réjouit autant les enfants que le public, et c'est bien l'objectif. Après, tout cela, évidemment, est conduit par une démarche historique aussi. Donc, c'est l'occasion d'évoquer des moments importants de sa vie, son martyre, voilà, aujourd'hui, son pèlerinage. Et puis, voilà, situer ce lieu dans une histoire voilà, de 1000 ans. On pourrait rester au côté anecdotique du chemin de Saint-Jacques avec ses relais gastronomiques et ses lieux d'hébergement et ses rencontres magnifiques, évidemment. Mais Marcel Pérez, depuis déjà quelques années, a choisi de mettre l'accent sur un point un peu oublié, qui est la pratique musicale. Et c'est bien l'objet ici de notre travail sur ce magnifique site de Moissac.
Il est temps à présent de découvrir ce fameux codex Calixtinus avec le chanteur Frédéric Tavernier-Vélas. Je le retrouve juste après les Laudes. Le tonnerre commence à gronder. Nous trouvons refuge dans l'un des cafés qui se trouve sur le parvis de l'abbatiale.
Alors le codex Calixtinus, c'est un manuscrit qui est dans la cathédrale de Saint-Jacques, qui est donc conservé là. Alors, on va juste faire un tout petit résumé de ce codex Calixtinus. Vous voyez, donc déjà à savoir que il a été attribué au pape Calixte II, donc au XIIe siècle, début du XIIe siècle. Alors, on lui a attribué surtout la partie de la hagiographique du recueil. Vous savez qu'à l'époque, les évêques, les papes, etc., écrivaient et notamment écrivaient pour mettre en valeur la vie des saints. Donc, voilà. Alors, on pense qu'il aurait été écrit à Vézelay autour de 1140 et offert à Saint-Jacques de Compostelle, qui entretenait avec le monastère bourguignon une forte communauté spirituelle. Alors, il y a plusieurs livres, et c'est dans le premier livre que se trouvent la plupart des sources musicales. Donc ça, c'est très important, qui sont monodiques pour la plupart. On est encore dans une monodie, mais avec quelques polyphonies. Lauda anima mea Dominum, laudabo Dominum in vita mea. Psalam Deo meo quam Diu fuero. Oui, on sent qu'on rentre dans le texte, tout simplement. Oui, et au fond, c'est cette prosodie qui est mise en valeur dès le départ. Quand vous prenez l'antienne qui va avec ce... Vous voyez, vous dites que les peuples se réjouissent. Bon. Gaudeat plebs galetianorum. Voilà, etc. Donc on sent au fond, on est très très proche de la langue parlée. On est très très proche vraiment d'une récitation poétique du texte. Moi, je dis toujours, la musique, c'est l'ornement, c'est le vêtement de la récitation, le vêtement de la parole. Et puis, la parole, elle peut vous ramener à ce qui est. J'allais dire que la parole liturgique, elle vous remet dans un jugement d'existence théologique de foi. C'est-à-dire, d'un coup, Saint-Jacques devient présent, quoi. On n'est plus dans une sorte d'évocation comme ça, ouais, Saint-Jacques, ouais, oh, c'est beau, les chemins de Saint-Jacques. Ah,
on n'est plus dans l'histoire.
On n'est plus dans l'histoire, on est dans le concret. Ouais. Et ça, c'est le rôle de la liturgie. Vous voyez, quand vous récitez les psaumes, chaque récitation des psaumes, c'est une façon de remettre l'intelligence en contact avec la source. C'est le vecteur d'une attitude contemplative, en fait. Et je crois que ce travail liturgique, il nous remet dans une expérience de contemplation dont on a besoin. Alors, pour certains, c'est une contemplation esthétique, parce que parce qu'ils n'ont pas la foi, parce que voilà, c'est pas. Mais j'ai des amis qui viennent assister au concert, ils disent mais on a besoin de ça. On ne croit pas, on n'est pas croyant, on ne va pas à l'église.
Mais c'est quelque chose qui touche.
Mais ça, ça nous touche. Et on en a besoin. Et puis, pour le croyant, c'est différent, parce que ça va plus loin, parce qu'on a ce retour à la source. Au fond, cette parole, à quoi est-ce qu'elle sert, la liturgie? À quoi ça sert de répéter ces choses-là? Pourquoi cette répétition? Et pourquoi il n'y a pas d'usure? Eh bien, je crois que là, il y a un réveil d'une intériorité, d'une foi et d'un jugement d'existence.
À Moissac, les sœurs de la communauté Marie, Mère de l'Église, ont reçu pour mission, entre autres, d'assurer chaque jour la liturgie des heures dans l'abbatiale et de proposer également un accueil monastique aux pèlerins du chemin de Saint-Jacques. Leur chemin et celui de Marcel Pérez et de l'ensemble Organum ne pouvaient que se croiser et même mieux, se rencontrer.
Alors, il y a eu un accord, il a demandé avec la communauté si nous ne pouvions pas célébrer ensemble la liturgie. Et voilà, en discutant, voilà, nous on a intégré l'hymne de Saint-Jacques qui est extraordinaire, splendide. Et puis eux, eh ben, on leur a appris notre psalmodie et ils s'intègrent complètement. Donc ça fait un ensemble qui est très beau, et même au niveau visuel, puisque les chanteurs viennent dans le chœur avec nous. Nous sommes en blanc, ils sont en noir. Donc ça fait un ensemble extraordinaire, très priant. Et en même temps, je pense que ça va plus loin, puisque les stagiaires qui chantent ne sont pas tous forcément des chrétiens, ni des pratiquants. Et en fait, au départ, ils ne comprenaient pas trop dans la psalmodie ce qu'ils chantaient, et ils découvrent vraiment la prière. Ce n'est plus un concert, c'est un temps de prière et de liturgie. Donc ils ressortent, ils sentent bien que là, ça élève l'âme. Ce n'est pas simplement la beauté du chant, mais c'est parce que c'est une prière. Moi, je suis touchée à la fin, c'est surtout en fin de journée, ou la fin de la journée, où nous partageons un repas ensemble, et là, dans les discussions, il y a vraiment une grâce qui passe à travers cette belle liturgie, voilà, qui est vraiment tout à l'honneur de Saint-Jacques, de l'Église. Et puis nous, ben pour nous, on découvre un patrimoine que nous ne connaissions pas du tout. Donc d'habitude, nous chantons des hymnes qui sont communs à tous les apôtres. Or là, nous chantons un hymne qui est propre à Saint-Jacques. Et alors moi, là, sur les papiers, c'est en latin, mais nous avons la traduction en français. Et moi, la première fois que j'ai vécu ces célébrations, j'ai complètement découvert Saint-Jacques, en fait, à travers ces hymnes anciens, qui sont d'une extrême profondeur spirituelle.
Quel sens ça peut avoir pour vous aujourd'hui de chanter ces liturgies qui viennent du fond des âges, ces liturgies médiévales ?
Mais je pense qu'il y a une dimension d'évangélisation qui, à mon avis, est très très importante aujourd'hui. La beauté de la liturgie est un moyen d'évangélisation. Voilà. Et puis après, on a besoin de... Ce sont nos racines, en fait. Hein. Les gens sont à la recherche, on le voit dans les visites du patrimoine. Aujourd'hui, il ne faut plus toucher une pierre parce que les gens sont à la recherche de leurs racines. Alors, ça va à travers l'architecture, le patrimoine, mais fondamentalement, c'est les racines chrétiennes. Et je crois que les gens ont soif de ça. Et du coup, remettre en valeur tout ce patrimoine, je pense que les personnes vont cheminer à travers ça, par le sens du beau, à travers la beauté du chant, la beauté de la liturgie. Et puis, c'est l'occasion, nous, par notre présence, comme je vous disais tout à l'heure, d'évangéliser, donc des questions, des liens. En fait, toute l'année, il y a toujours un peu des paroissiens, surtout aux Vêpres. Et puis, dans la période, j'allais dire estivale, donc de Pâques jusqu'à peu près la Toussaint, il y a soit des pèlerins, soit pas mal de touristes qui passent, soit qui restent à l'office, soit qui écoutent. Enfin, il y a toujours, c'est très très important, ce lieu de prière, que ça redevienne un lieu de prière et non pas un simple lieu touristique. Voilà, donc Marcel Pérez, je crois, rend un très, très, très grand service pour le patrimoine, pour la beauté du chant, mais pour l'Église et pour nous aussi. On est les premiers, oui, pour l'Église, c'est ça. Et puis je crois que nous, communauté religieuse, il faut que nous travaillions en collaboration avec ces moyens. Voilà, il faut vraiment... l'office, on arrive à être en accord, mais il faut vraiment qu'on fasse des efforts, parce que c'est un moyen d'évangélisation aussi. Il y en a beaucoup qui rentrent dans ce lieu, ils sentent quelque chose, enfin, il y a quelque chose, la prière. On leur dit, les murs ont eu des années, des centaines d'années de prières.
Surtout lorsque vous êtes là, qu'ils vous entendent chanter, qu'ils vous entendent prier, qu'ils vous voient
oui,
prier.
Oui, oui, oui. Alors, ils nous voient prier. Je crois qu'ils sont très touchés par la beauté du chant. Nous, les sœurs, à force de s'entendre, on sait voir que les choses négatives dans notre chant. Mais les gens nous disent, c'est très beau comment vous chantez. C'est vrai que l'acoustique s'y prête, puisque ça a été construit pour le chant liturgique. Moi, j'aime beaucoup en chantant les psaumes. Bon, il y a des psaumes qui vous... Un matin, c'est la joie, ça exprime la joie alors que vous êtes dans la tristesse. Ou le lendemain, ça exprime la tristesse alors que vous êtes dans la joie. Et c'est pas pour nous, vous voyez. Nous prions pour tous ceux qui sont dans la joie aujourd'hui. Nous chantons ça pour tous ceux qui sont dans la tristesse, etc. Aujourd'hui, vous voyez, c'est...
Cette année encore, les 24 et 25 juillet, les sessionnistes, l'ensemble Organum et la communauté paroissiale vous invitent à Moissac pour du lever du soleil jusqu'au cœur de la nuit... Fêtez et chantez avec eux l'apôtre Jacques.